RCF.
Ligne de mire sur RCF Besançon, Belfort, Montbéliard, présenté par Jean-Michel Badet jusqu'à midi.
Bonjour, l'actualité de la semaine autrement, c'est Ligne de mire. L'actualité, ce sont les visites pastorales. Pour cette occasion, Ligne de mire a décidé de vous faire découvrir les villes et villages visités par notre archevêque. Première étape, Quingey. Nous sommes ensemble sur RCF jusqu'à midi. Vous nous écoutez à Besançon sur le 87.6. Tout de suite, le sommaire du Ligne de mire du 11 octobre 2019. Située à 23 km au sud-est de Besançon, la ville de Quingey, bordée par la Loue, jouit d'une situation géographique tout à fait favorable, entre plaine et basse montagne, au fil de l'eau, bordée de forêts centenaires, proche de hauts lieux touristiques, les salines royales d'Arquet-Senan et les salines de Salins, la grotte d'Ossel, la citadelle de Besançon, en lien direct avec le vignoble jurassien et son cœur Arbois, non loin du pays Courbet également. Quingey, c'est aussi une activité riche sur le plan industriel et commercial. Nous aurons l'occasion d'en parler avec notre premier invité, Jean-Michel Roy, adjoint au maire de Quingey, en dressant également un tableau de la vitalité locale, associative et culturelle. On évoquera également la place de Quingey au sein de la communauté de communes Loulison et l'intérêt d'un tel regroupement. C'est à Quingey qu'est implanté un établissement de santé depuis 1849. Il regroupe un service de médecine physique et de réadaptation, un service de longue durée, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, une unité de personnes souffrant de maladies d'Alzheimer, un PASA, un service d'accueil de jour, un service de soins infirmiers à domicile, une maison d'accueil spécialisée, un centre de séjour pour personnes souffrant de maladies de Parkinson, avec Claudine Barthet, responsable du service d'accompagnement à la vie sociale. Nous parlerons plus précisément de la maison d'accueil spécialisée et de l'unité pour personnes souffrant de maladies d'Alzheimer, le rôle de chacune de ces structures et leur place au sein de la ville de Quingey. Le tourisme vert, le retour à la nature, l'activité physique sont des thèmes en parfaite adéquation avec la ville. Avec Pierre-Mère Duposet, détaché pendant l'été à l'Office du tourisme d'Ornan, nous dresserons le bilan de cette année touristique et nous parlera du dispositif Mascotte, mission d'accompagnement, de soutien et de conseil aux offices de tourisme qui permet de tenir cette permanence à Quingey. On prendra quelques instants avec Pascal Bonnet, membre de la commission d'art sacré du diocèse, pour évoquer l'histoire de l'église de Quingey. Enfin, avec Frédéric Ponce, président de l'association Le Tri, seront placés au cœur des préoccupations quotidiennes des citoyens pour discuter tri, recyclage, mais aussi protection du milieu naturel par l'engagement de l'association pour préserver la côte de Moigny. Et puis, bien entendu, nous n'oublierons pas Jean-Louis Arbet et notre chroniqueur. Nous nous sommes rendus il y a quelques jours au presbytère de Quingey pour enregistrer cette émission. On remercie Valérie pour la technique. Ligne de mire, c'est tous les vendredis de 11h à midi, rediffusé le dimanche à 17h et podcastable sur le site de rcf.fr.
Ligne de mire, l'invité de la rédaction.
Jean-Michel Roy, bonjour.
Bonjour Jean-Michel.
Alors vous êtes le quatrième adjoint de la mairie de Quingey, chargé de la culture, de la vie associative et de l'action sociale. Si vous deviez présenter votre commune aux auditeurs, moi j'ai lu que Quingey ça voulait dire beau séjour, c'est une réalité?
Alors oui, on a la chance ici, donc on est très proche de Besançon, une vingtaine de kilomètres. Et effectivement, on a la chance aussi d'avoir tous les services sur place. On a un collège, on a des supermarchés, des artisans, des commerçants. Et également un cadre de vie intéressant au niveau touristique et environnement avec la Loue, le camping. Donc oui, on peut dire que c'est un très beau cadre de vie à proximité de la grande ville, la grande métropole de Besançon.
Un des critères, c'est l'augmentation de la population, hein, puisque quand on regarde les recensements d'année en année, vous ne cessez pas de faire augmenter la population de la ville. Vous êtes à plus de 1400 habitants, je crois.
Oui, donc on a eu une grosse augmentation de population avec la création d'un lotissement de 80 habitations il y a environ 4 ans. Et par contre, là, on arrive à peu près à la limite. On a fixé une limite dans le plan local d'urbanisme qui est fixée à 1600-1700 habitants maximum, avec des projets d'extension, mais qui sont maintenant très limités du fait des inondations, du fait de... Voilà, on peut pas s'agrandir beaucoup plus sur Quingey actuellement. On a quelques zones à urbaniser encore.
Et vous souhaitez garder une taille raisonnable?
Oui, on va garder une taille raisonnable. C'est ce qui fait le charme aussi de la commune.
Ce qui fait aussi peut-être le beau séjour. Vous avez des industries qui sont implantées ici. Alors, on sait qu'il y a une usine Peugeot qui fait des articles de cuisine, si je me trompe pas.
Oui, c'est Peugeot Saveur, donc qui fait les fameux moulins, essentiellement les moulins à sel et à poivre, qui sont très connus mondialement, hein, qui exportent dans le monde entier. là ils sont dans leur grosse période d'activité avec les fêtes de Noël. Et effectivement, donc ça c'est la plus grosse entreprise, on va dire industrie de la commune. Et à côté de ça, on a l'établissement de santé hein, qui est très important à la sortie de la commune aussi, en direction de Salins-les-Bains, Lons-le-Saunier, qui est le plus gros employeur de la commune, hein, plus grand que Peugeot Saveur.
On reviendra voilà, d'ailleurs sur marque, ce qui se fait à l'intérieur de cet établissement. Et puis bien entendu le tourisme.
Oui, le tourisme, donc avec le camping, on a une base de loisirs aussi, hein, basée au bord de la Loue, sur le site qui s'appelle les Promenades. Et donc une base qui propose essentiellement de l'activité canoë-kayak, donc qui souffre un petit peu du manque d'eau, hein, parce qu'on a eu des étés très très secs, hein, très très chauds. Et donc voilà, mais ça c'est vraiment une activité très reconnue aussi sur Quingé.
Voilà, on en reparlera certainement avec Pierre-Mère Dupozet, qui avait été détaché d'Ornan pour la période estivale pour le tourisme. Alors, si on prend un second point, on sait que les communes rurales ont toujours un petit peu plus de difficultés maintenant parce que un certain nombre de services publics vont s'en aller de ces communes, même si elles sont très dynamiques comme la vôtre. Vous avez ce qu'on appelle ici une maison de service public. Alors, c'est quoi une maison de service public? C'est un endroit où on trouve tous les services publics qui ont tous disparu?
C'est un petit peu ça, c'est donc dans les locaux de la mairie, hein, donc de la mairie qui s'appelle d'ailleurs la maison des services. Donc c'est en fait une délocalisation des services notamment qui sont basés à Besançon, genre mission locale, des permanences emploi, des accueils de la DMR, des choses comme ça qui permettent à la population locale de ne pas se déplacer à Besançon, même si on a une ligne de bus qui fonctionne le matin et le soir. C'est quand même assez limité pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer.
Pour venir prendre un conseil, pour venir faire des papiers, pour rencontrer éventuellement des personnes qui permettront éventuellement de les aider à avoir la bonne décision prise au bon moment.
Voilà, c'est ça. C'est des personnels salariés des structures hein, qui viennent, qui se déplacent, qui font des permanences dans notre commune, dans la maison des services.
Alors, quand on regarde un petit peu ce qu'on dit sur Quingé et ce que nous dit Internet, puisque maintenant Internet répond à beaucoup de questions, on voit qu'il y a une communauté importante, alors qui s'appelle Loulison. Alors, faut reconnaître quand même que si on regarde cette communauté, moi j'ai pris le compte là de l'est à l'ouest et du nord au sud. On a Arquesnan d'un côté, Moutier de l'autre, et de l'autre côté au sud de Sainte-Anne et l'hôpital du Grosbois au nord. C'est plus de 600 km².
Oui, c'est énorme. C'est d'être la plus grande communauté de communes en superficie.
71 communes.
71 communes, oui. Alors, pas une population énorme, hein, parce que, alors, je sais plus la population exacte de la communauté de communes, je vais pas dire de bêtises, mais beaucoup de communes, une grande superficie, sans doute la plus grande communauté de communes de la région, des accès difficiles, parce qu'on a quand même des routes, pas très faciles pour aller, par exemple, d'ici à Moutier-Haute-Pierre, si on prend un exemple comme ça. Mais par contre, ça a permis de regrouper aussi des services. Il y a eu un gros travail de fait pendant 2 années pour remettre tout à plat. Parce qu'avant, il y avait 3 communautés de communes qui se sont regroupées en une. On avait Ornan, Amancé et Quingé. Et ça fait maintenant le pays Loulison. Et il y a eu un gros travail fait en bonne entente avec tous les élus, tous les maires. Ça s'est vraiment bien passé, contrairement à d'autres communautés de communes qui ont beaucoup plus de mal qu'ici.
Les Quingeoises et les Quingeois, ils retrouvent leur compte. Ils n'ont pas l'impression d'avoir perdu un peu leur identité?
Non, parce qu'on a justement cette communauté de communes nous permet aujourd'hui d'avoir ces services qui reviennent un petit peu à la mairie. Quingé vraiment reprend plutôt de la valeur par rapport à ça. On nous amène des services. On est en train de développer aussi une zone de santé aussi, on est en train de réhabiliter des locaux, mais ça c'est aussi grâce à la communauté de communes. Il y a un vrai besoin quand même qui est reconnu.
À l'intérieur de cette communauté de communes, Quingé est représenté comment? C'est Madame le maire de Quingé qui représente, c'est des élus?
Alors il y a Madame le maire qui siège et puis il y a 2 adjoints qui siègent également. Et au niveau de la commune, on a aussi le syndicat intercommunal du pays de Quingé qui est beaucoup plus réduit, qui est 6 communes, hein, autour les 6 communes les plus proches de Quingé. Là où on gère les parties plus locales, et là où des élus, moi par exemple, je fais partie de ce syndicat, où on représente vraiment les actions locales, notamment l'école. La grosse action, c'est l'école qui est gérée au niveau intercommunal.
Enfin, sur les actions de la commune de Quingé sur ces 5 dernières années, il y a eu des choses importantes qui ont évolué la fin du mandat, on va dire.
Oui, ben on a fait des travaux quand même assez conséquents. C'est en projet, ce sera pas fini avant mars 2020. Mais sur le pôle santé, on a vraiment un gros chantier qui est en cours. Ça, c'est le gros projet qui a été mené. On a fait un gros aménagement là, par contre, qui sera terminé juste avant la fin du mandat, en fin d'année, d'accueil près de l'école du groupe scolaire, qui va faire un accueil plus sécurisé et plus attractif pour les parents. et aussi le collège qui est en travaux et qui sera fini fin 2020, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, fin 2020.
Voilà, on voit bien que certes, il y a une ruralité, mais cette ruralité s'inscrit quand même dans un tissu qui est un tissu social et urbain important. Pour terminer, vous êtes adjoint à la culture. Quingé, il a une réputation. Il y a une médiathèque doit faire beaucoup de jaloux.
Alors effectivement, ça c'est été un gros aménagement qui a été fait avant qu'on soit élu il y a 3 ans. La médiathèque, les mots de la Loule, qui a été vraiment, qui est vraiment un très très bel outil, très très joli au niveau esthétique aussi, avec des grandes baies vitrées et un gros succès, des animations. Et on a également à Quingé, c'est important de le signaler, un espace culturel. Qui est avec des gradins amovibles, on a 100 places, une vraie salle de spectacle qui a été inaugurée il y a une petite dizaine d'années maintenant et qui permet d'avoir vraiment une programmation culturelle de grande qualité sur la commune. C'est la seule sur le département du Doubs à ma connaissance, il y en a deux, c'est Pierrefontaine-les-Varans et nous qui avons vraiment des espaces culturels dédiés vraiment au spectacle à 100%.
Pour une ville de 1400 personnes, c'est indispensable d'avoir ce tissu culturel qui puisse s'inscrire dans une architecture qui les accueille.
Oui, parce qu'on est 1400, mais il y a toutes les communes autour qui viennent vers nous également.
Oui, d'ailleurs, je pense qu'on en reparlera avant la fin de cette émission avec Monsieur Ponce, puisque je pense qu'il y a une projection de prévue avec l'association Le Tri dans cette médiathèque dans le courant de ce mois. Monsieur Roy, on va vous remercier d'être venu prendre un peu de temps parce qu'un conseiller municipal d'une commune comme Quingé, je pense que vous devez avoir une activité professionnelle encore.
Ah bah oui, bien sûr, oui.
Et donc, c'est en plus.
C'est en plus, oui.
Voilà. Et puis, alors, il n'y a plus d'harmonie municipale, je crois, maintenant, mais...
Alors, c'est pas qu'il n'y a plus, elle existe encore. Ça s'appelle la fraternelle, elle existe encore. Mais on est un petit peu en perte de vitesse en recrutement de musiciens, c'est un petit peu, voilà.
Voilà, donc on va lancer un appel pour qu'il y ait des gens qui vous rejoignent. Julien du saxophone, moi je vais vous proposer une pause musicale. On rappelle que Pauline Demire, on est à Quingé pour accompagner les visites pastorales. Et cette pause musicale, eh bien, c'est la sortie d'un très beau disque de Lucienne Renaudien-Varic, une jeune trompettiste, et qui vient de sortir un disque sur les musiques américaines, mais aussi sur les musiques françaises. C'est Le Bœuf sur le Toit de Darius Milhaud. Merci, Monsieur Roy.
Merci. Thank you.
Écoutez RCF sur le 87.6 à Besançon.
Ligne de mire se déplace en Franche-Comté. Nous sommes à Quingé, au sud-est de Besançon. On va poursuivre avec Pascal Bonnet, membre de la commission d'art sacré du diocèse. C'est un petit coup de projecteur sur un des édifices typiques de Quingé, l'église Saint-Martin.
C'est sur l'actuelle place d'Armes, à Quingé, que s'élevait l'ancienne église fondée entre 1296 et 1300. Elle est détruite en 1796, ainsi que le cimetière qui l'entourait, car elle gêne la modernisation de la voirie, puis la construction de la voie impériale reliant Strasbourg à Lyon, devenue la RN83. L'église actuelle est l'ancienne chapelle du couvent des Dominicains. En 1762, les religieux font édifier une nef terminée par un chœur auquel est accolé deux chapelles et un clocher. Une première phase d'agrandissement a lieu en 1804, puis une seconde campagne de construction des bas-côtés est réalisée par l'architecte Pinchot. La nef principale est refaite en 1839. Quingé est le bourg natal de Guy de Bourgogne, qui devint le pape Calixte II au début du XIIe siècle. L'église est sous le vocable de Saint-Martin, qui est né vers 316. Il est le fils d'un tribun militaire élevé en Italie. Il est enrôlé dès l'âge de 15 ans dans les armées romaines. Alors qu'il est en garnison à Amiens, dans la garde impériale, il donne une partie de son manteau, la doublure probablement, à un misérable à demi mort de froid. De nombreux tableaux présents dans l'église sont les œuvres d'une personnalité oubliée de Quingé, Félix-Henri Giacomotti. Pour Saint-Martin, à la porte d'Amiens, le peintre fait poser des habitants de Quingé, et notamment la famille Valot, dont le père Dodo, le sacristain, est le pauvre recevant le manteau. Et sur la toile de Saint-Martin, une vue de Quingé, avec les promenades, le long de la Loue, l'ancien couvent et le clocher. Ou encore, sur la victoire de Lépante, ou sur celle de la Grande Pesque de Marseille, offerte à l'église en 1892, eh bien les Quingeois sont venus poser. Des toiles composées très simplement, avec un dessin précis, net et des couleurs vigoureuses. C'est un peintre renommé pour ses portraits. Félix-Henri suit les cours de l'École des Beaux-Arts de Paris. En 1854, il remporte le prix de Rome, de peinture d'histoire, un prix très convoité, qui lui permet de séjourner en Italie de 1855 à 1860 à la Villa Médicis, actuelle Académie de France à Rome. Il a pour ami le sculpteur Jean-Baptiste Carpeau, Edouard Degas, Gustave Moreau et le musicien Georges Bizet, compositeur de Carmen. Il participe au Salon parisien et mène une vie relativement aisée grâce à la réalisation de nombreux portraits. En 1867, il reçoit la Légion d'honneur. Il est un peintre réputé, recevant de nombreuses commandes de l'État, comme celle de l'un des plafonds du musée du Luxembourg. Mais la guerre de 1870 va le ruiner. Sa maison au numéro 1 de la Grand Rue à Quingé est pillée et il doit rembourser les dettes de son second beau-frère et subvenir aux besoins de sa sœur et de ses trois neveux, veuves de guerre. Il retrouve une clientèle grâce à son talent de portraitiste. Il rencontre le riche propriétaire des forges de Quingé, dont il fait le portrait de la fille Marie-Louise Regard, en patineuse, fiancée un court moment au jeune lieutenant Pétain. La patineuse est exposée au musée des Beaux-Arts et d'Archéologie. À Besançon, la municipalité lui offre le poste de directeur de l'École des Beaux-Arts et celui de conservateur du musée. Dès lors, Giacomotti va s'investir dans la vie locale. Il fait de l'École des Beaux-Arts de Besançon l'une des meilleures écoles de province et attire de jeunes peintres franc-comtois comme Jules-Émile Zinc. Il décède en 1909 et est enterré à Étampes.
Merci à Pascal Bonnec. Nous retrouverons pour tous les lignes de mire en lien avec les visites pastorales. Après avoir dressé un tableau général de la commune, on s'intéresse à un domaine plus particulier et spécifique de Quingé, la santé, avec nos deuxièmes invités.
Ligne de mire, l'invité de la rédaction.
Claudine Partet, bonjour.
Bonjour.
Marie-Laurence Beau, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes respectivement, pour la première, éducatrice spécialisée responsable de l'accompagnement à la vie sociale au sein de la MAS de Quingé, la maison d'accueil spécialisée, et Madame Beau, vous êtes cadre de santé. On va parler de deux sujets, la maison d'accueil spécialisée et l'accompagnement des patients souffrant de maladie d'Alzheimer, qui est une des spécificités de cette maison et de cet établissement de santé. Alors, Une masse, on va dire que c'est une masse, maison d'accueil spécialisée, c'est quoi? On accueille qui?
Alors, c'est une structure qui propose un hébergement permanent à des personnes adultes qui sont handicapées avec une dépendance grave.
C'est-à-dire des gens qui restent couchés tout le temps, des gens qui sont en fauteuil mais qui ne peuvent pas se déplacer.
Voilà, c'est voilà. Ça. Ça voilà. Peut être des gens qui sont couchés tout le temps, ça peut être des personnes en fauteuil. En tout cas, en ce qui concerne la masse de Quingé, effectivement, l'agrément, c'est le handicap physique. Vous pouvez avoir des masses avec une autre forme d'agrément, handicap mental par exemple. Ouais. Et c'est vrai que la spécificité de la nôtre, c'est d'accueillir des personnes gravement handicapées physiques.
Donc c'est des gens qui vont avoir besoin de beaucoup de personnes autour d'elles.
Voilà, beaucoup de personnes autour d'elles qui ont besoin d'être accompagnés pour la plupart des actes de la vie quotidienne, le lever, le coucher, les transferts du lit au fauteuil, l'alimentation, et des gens qui, pour nombreux d'entre eux, ont besoin de soins spécifiques, de soins sanitaires, de soins de santé.
C'est pour ça qu'ils sont, entre guillemets, ils sont pas co-handicapés, ils sont aussi malades.
Il peut y avoir, voilà, il peut y avoir une maladie liée au handicap. On a plusieurs origines hein, du handicap physique. Il peut y avoir un handicap congénital, donc la personne elle est née avec avec son handicap physique. Des handicaps acquis par un accident de la vie, par exemple, ou un accident de santé. Et puis les maladies évolutives. Et on trouve vraiment ces trois types de publics dans notre maison d'accueil de Quingé.
Alors, ce qui est intéressant, je pense, pour nos auditeurs, c'est de voir un peu la spécificité de votre maison. Et on voit sur ce qui est écrit que vous insistez beaucoup sur le bien-être à l'intérieur de cette structure. Vous, vous êtes chargé de la vie sociale. Comment ça se passe? Il y a des activités qui sont prévues avec ces personnes. Ça doit pas être facile de faire des activités avec des personnes lourdement handicapées, de les trouver, de les organiser.
Alors, on va dire, c'est pas forcément simple, mais ils sont déjà tellement en vie, ils ont déjà tellement envie de faire que c'est déjà aidant pour nous. Après, on a appris à adapter, on a appris à vérifier les conditions d'accueil dès qu'on est sur des sorties, que ce soit sur plusieurs jours. Là, on a un groupe qui vient de rentrer d'un séjour dans le Midi, par exemple, hein, 4 résidents qui sont, ils avaient envie d'aller voir la mer, ils ont pu aller voir la mer. Alors, c'est vrai qu'on a trouvé une structure pour les héberger, adaptée, avec avec possibilité de mettre des lits médicalisés, avec des appels malades pour les chambres des accompagnants, etc.
Voilà. Avec quand on a en charge cette activité-là, est-ce qu'il y a des moments où il y a véritablement des freins, c'est-à-dire des choses qui peuvent absolument être pas faites, et peut-être parce qu'à l'extérieur, on n'a pas pris conscience de l'importance de ce genre d'activité.
Alors, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent pas être faites? Je vais avoir du mal à vous répondre. Je pense si on veut aller visiter le château de, je sais pas, un château fort, on va pas pouvoir monter les fauteuils dans le château fort. Là, il va falloir visiter de façon virtuelle.
On parle tout des remparts de la citadelle.
Technologie. Ouais. Voilà, on va à la citadelle, mais on peut pas effectivement aller dans les remparts. En fait, la question c'est toujours de savoir adapter et je pense que voilà, on arrive quand même à faire beaucoup de choses et à répondre à beaucoup de projets. C'est vrai que nos activités d'animation, de vie sociale, en fait, cherchent surtout à répondre aux projets des personnes qui sont là en hébergement et qu'on arrive à décliner sur un plan collectif. Voilà, quelqu'un qui a envie d'aller au restaurant, et ben voilà, il y a un groupe organisé pour le restaurant et je vous assure qu'il y a toujours des volontaires. Quelqu'un qui va aller voir la mer, on trouve aussi. Voilà.
Pour le mois en cours, il y a des activités de prévues.
Alors, il y a toujours des activités prévues. C'est vrai qu'au niveau de la maison d'accueil, on est très orienté sur les sorties parce qu'il y a une demande assez forte des résidents. Donc là, je vous ai parlé du séjour qui rentre, du groupe qui rentre de séjour vacances. On a aussi des échanges entre établissements similaires. On en a un à Nancy, on en a un à Bourg-en-Bresse. Donc là, on a aussi un Moret. Donc là, ce mois-ci, on a des échanges en cours. C'est une solution un peu de vacances. Quand on est lourdement handicapé physique, on n'a pas trop... Voilà, ça c'est une difficulté, trouver un organisme de vacances qui vous accueille alors qu'il faut des spécificités, du matériel, du personnel, c'est difficile. Donc, voilà, les échanges entre établissements. Et puis après, on a des choses qui sont moins visibles, on va dire, ou qui se passent sur des temps plus courts, sur des demi-journées. Bon, ce mois-ci, ils vont aller visiter la ferme des Lamas à Mirol. Je fais de la pub.
Mais c'est une bonne, bonne chose.
On a la Biennale des Arts Plastiques aussi à la fin du mois. Alors ça, c'est un incontournable aussi. Nos résidents adorent aller s'immerger dans l'art
dans la
de la Biennale, dans la culture. Voilà. Alors, après, on a toutes nos petites activités sorties habituelles, supermarché, cinéma, ça, voilà, tous les mois, c'est organisé systématiquement.
On voit bien qu'effectivement, il y a un grand dynamisme. Alors, on va continuer avec madame Marie-Laurence Beau, vous êtes cadre de santé. Alors, on va retomber probablement sur des préoccupations qui vont être des préoccupations qui sont aussi assez proches. Vous vous occupez d'Alzheimer, bien entendu, le handicap n'est pas le même, il n'est pas du même niveau, mais finalement, l'offre qu'il faut donner à ces personnes-là est aussi importante.
Alors, c'est une offre qui est spécifique, hein, puisqu'on a une unité au rez-de-chaussée du pavillon Dornier de 36 lits qui peuvent accueillir donc 36 résidents. Ça va permettre d'accompagner les résidents qui présentent des troubles du comportement. Voilà. Et on va accueillir des patients qui présentent de la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée ayant des troubles du comportement. Voilà.
Alors justement, dans ce contexte-là, c'est une maladie qui malheureusement monte en puissance, oui. On va dire. Il y a une grosse liste d'attente, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui attendent une place dans un établissement comme le vôtre.
Ouais, où il y a beaucoup de gens qui attendent, mais les familles essayent au maximum de les garder à domicile le plus longtemps possible. Et quand vraiment les risques d'épuisement sont là pour les familles, parce que ce sont souvent des personnes qui demandent beaucoup d'attention à domicile, avec surtout des risques de se perdre. On parle de fugue, mais c'est pas volontaire, hein. On va dire plutôt un risque de se perdre. Voilà. Donc c'est vraiment à un moment donné l'épuisement familial qui fait que on vient en dernier moment dans cette unité, puisque c'est des gens qui déambulent qu'on accueille. Ce sont des gens qui ne sont pas couchés, c'est des gens qui vont se promener, vaquer à leurs occupations et déambuler au cours de leur journée dans cette structure qui est dédiée vraiment à cet accueil spécifique.
Vous recevez pas, bien entendu, que des gens de Quingé. Je pense que vous drainez sur un secteur qui est quand même beaucoup plus large.
Voilà. Ça. On a quand même une priorité d'accueillir les gens en priorité du canton. Mais après, voilà, il y a également une liste qui peut accueillir des gens du Doubs. Mais il y a d'autres unités protégées dans le secteur, tel à Bellevaux ou à Havane. Mais en priorité, on prend des gens du canton. Mais après, on peut accueillir toute personne. On est limitrophe aussi du Jura, voilà, donc on peut accueillir également des gens limite Jura.
Alors, on vient de le voir avec Madame Barthet, que l'accueil et la vie sociale, l'environnement était important. Pour ces malades d'Alzheimer, c'est aussi il y a aussi des activités qui sont proposées. Ça fait partie finalement de la thérapeutique.
C'est une obligation. Surtout ces gens où il y a besoin d'une occupation importante dans l'errance, on va dire la déambulation de ces gens-là. Donc il y a des animations simples, hein, avec des équipes d'animation sur des jeux, des ateliers, des ateliers cuisine. Mais on a également des activités plus spécifiques, des activités, on va dire, thérapeutiques, qui sont également données par l'équipe du PASA, c'est-à-dire le pôle d'activité et de soins adaptés, qu'on appelle le Café Cocotte, où on va accueillir des personnes qui présentent des troubles du comportement modéré. Et ces personnes peuvent intégrer ce PASA suite à une évaluation par une psychologue qui vont permettre de voir les critères qui nécessitent cet accueil. Donc là, il y aura des activités physiques de bien-être, des activités de stimulation cognitive, des jeux de mémoire, des activités d'expression et de communication. Ils adorent le chant, la lecture, des activités quotidiennes ou domestiques, tout ce qui est cuisine thérapeutique, et des activités socio-culturelles.
Voilà, donc on voit donc que c'est un ensemble de choses dont on vient de parler avec Madame Martet, avec vous, Madame Beau. On va malheureusement être obligé de s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que je pense que vous auriez encore beaucoup d'autres choses à nous raconter, à nous expliquer. Donc on va rappeler que sur Quingé, où nous sommes pour Ligne de Mire, cet établissement de santé, on en discutait tout à l'heure avec Monsieur Roy, l'adjoint au maire, représente une activité importante et un lieu de vie important pour les Quingeoises et les Quingeois. Alors pour Ligne de Mire, chaque semaine, Jean-Louis Orbet nous porte son regard, et il va nous porter son regard, il nous a pas accompagnés depuis Besançon.
Bonjour. Bonjour. En me penchant sur la thématique du jour pour préparer ma chronique, j'ai tenté de balayer différentes périodes de l'histoire de Quingey pour chercher ce qui allait constituer les fondements de mon inspiration du jour. Paradoxalement, ce qui m'est revenu en mémoire, ce sont d'abord des souvenirs d'enfance. Chaque week-end, lorsque nous nous rendions en famille chez ma grand-mère, nous passions par Quingey. Le contournement n'existait pas, bien entendu. Il sera inauguré en 1999. Nous arrivions par la rue principale de Chouzelot. La voie se rétrécissait assez nettement et nous devions effectuer un virage assez serré sur la gauche avant d'entrer dans Quingey. Sous le panneau d'entrée d'agglomération, je me souviens un autre panneau faisant allusion à Calixte II, ce pape du XIIe siècle qui était originaire de Quingey. J'aimais passer en voiture avec mes parents, mes deux sœurs et mon frère. Dans ce bourg aux rues assez étroites, j'aimais déboucher sur cette grande et belle place d'armes entre la mairie et l'église sur ma droite, les commerces tout autour de cette place et, tournant à gauche, le pont enjambant la Loue. Puis, juste après le pont, à droite, l'hôtel-restaurant, qui me paraissait à l'époque digne d'une étape gastronomique. Sur le pont, en regardant à gauche, on distinguait ce qui ressemblait à une très agréable promenade piétonne ombragée par de majestueux platanes, plantés il y a très longtemps, semble-t-il. Quingey m'impressionnait, aussi avec tous ses beaux édifices. Oui, sans conteste, Quingey devait avoir vécu un passé riche et prestigieux. Un autre souvenir, plus récent, m'est également revenu en mémoire. J'ai assisté avec des amis anglais, amoureux inconditionnels de la France, de l'Europe et de la Petite Reine, à une étape du Tour de France 2012 qui passait par Quingey. Beaucoup d'entre vous y étaient peut-être. C'était le contre-la-montre Arquesnans-Besançon. Nous étions arrivés très tôt et nous avions pu nous placer sur les pentes d'Abans-Dessus à la sortie de Quingey, le long du cimetière, pour tenter de voir pendant quelques secondes ces cyclistes qui donnaient tant d'eux-mêmes pour entrer dans la légende. Eh oui, cette chronique, somme toute buissonnière, laisse néanmoins, je crois, toute la place au fleurissement de notre imagination et à l'épanouissement de l'enfant qui sommeille toujours en chacun de nous. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.
Merci à Jean-Louis Herbé. On poursuit notre découverte de Quingey sur place en parlant, bien entendu, tourisme avec notre troisième invité.
Ligne de mire, l'invité de la rédaction.
Pierre Maire du Posay, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes guide touristique, vous travaillez à l'Office du tourisme d'Ornans, vous avez été détaché à Quingey cet été grâce au dispositif Mascotte. Alors on va peut-être commencer par là pour expliquer à nos auditeurs ce qu'est ce dispositif Mascotte. C'est un dispositif donc d'aide aux offices de tourisme.
Voilà, c'est une structure qui aide, qui accompagne les offices de tourisme. Et effectivement, cet été, la Mascotte nous a fourni un triporteur à assistance électrique qui m'a permis d'aller à la rencontre des visiteurs de la Saline Royale d'Arquesnans pour pouvoir leur permettre de... pour leur proposer d'autres sites à visiter pour la suite de leur séjour.
Donc c'est finalement un moyen mobile relativement simple d'essayer de garder une place de l'Office du tourisme dans des lieux qui pourraient être un peu isolés. Parce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir quelqu'un qui reste en permanence à un Office du tourisme à Quingey.
Effectivement, donc cet été on avait ces deux solutions d'accueil hors les murs. Et on a été très contents de cette prestation estivale. Les visiteurs étaient également agréablement surpris, parce que c'est vrai que c'est un petit peu un accueil insolite pour eux. Donc voilà, ça a bien fonctionné.
Oui, puis c'est un peu dans l'air du temps, c'est écologique.
Tout à fait, exactement. Même s'il y a une assistance électrique sur ce fameux triporteur, voilà, il n'y avait aucune émission de CO2.
Alors, si on dresse finalement de la période estivale un bilan sur Quingey, c'est quoi? C'est une bonne saison, une saison moyenne? Vous savez à peu près combien de touristes sont passés par Quingey?
Alors, par Quingey, c'est assez difficile à dire puisque cet accueil à Quingey était dans les lieux d'une base nautique, d'une base de canoë. Donc après, la saison a été à peu près... à peu près égal aux saisons précédentes. Et moi, dans ce bureau provisoire, je donnais des informations sur d'autres sites à visiter à la suite de leur sortie canoë.
Oui, c'est ce qu'on avait expliqué dans le début de l'émission, la place particulière de Quingé, un petit peu au carrefour de différents lieux, entre la citadelle de Besançon, les Salines et Arbois. Touriste français, touriste étranger, c'est un lieu qui est prisé par les étrangers où on reste sur un tourisme loco-régional?
Alors, la région est Quingé également, est prisée également par les touristes étrangers. Donc, nos trois premières clientèles étrangères sont les Allemands. Voilà, c'est notre première clientèle étrangère. Ensuite viennent les Suisses et les Néerlandais.
On reste toujours sur une sorte de tradition de ces pays qui aiment bien finalement ce type de tourisme avec l'eau et la verdure.
Tout à fait. Et c'est aussi un groupe de population qui aime aussi les hébergements de plein air. Donc c'est des gens qui ont l'habitude d'utiliser les campings, et notamment celui de Quingé qui est juste à côté de la base nautique.
Voilà, en regardant sur le site du camping de Quingé, je me suis aperçu que on n'avait pas véritablement des mobil-homes comme dans beaucoup d'autres campings, mais des sortes de bungalows avec une sorte de vraie proximité avec la nature. Je pense que c'était une volonté de garder ce côté nature au camping.
Tout à fait, c'était leur volonté de proposer ce type d'hébergement et également de garder cette ambiance de camping rural, familial, c'est-à-dire sans grosses manifestations le soir, concerts ou ces choses-là qu'on peut avoir dans d'autres campings, dans d'autres régions de France.
Alors, cet été, il y a eu une forte canicule pendant la période estivale. Alors, on sait bien qu'il y a la Loue à côté qui apportait certainement un petit peu de fraîcheur. Mais est-ce que cette canicule a eu un retentissement en positif ou en négatif sur le tourisme dans la région?
Alors, pendant début juillet, il y a eu un tout petit retentissement négatif avec des personnes qui ont préféré rester au frais, tout simplement. Et la base nautique a également eu des soucis de débit d'eau, ce qui leur empêchait de réaliser les parcours habituels en canoë.
D'accord. Est-ce que quand on s'occupe comme vous de l'office du tourisme, il y a des liens particuliers avec la municipalité de Quingé? C'est-à-dire, est-ce que vous vous voyez à certaines périodes de l'année? Parce que je pense que pour une municipalité, comme on l'a évoqué tout à l'heure avec Monsieur Jean-Michel Roy, adjoint, le tourisme est une part importante de la vie de Quingé. Vous en reparlez dans le reste de la saison pour développer des activités complémentaires, pour modifier des choses?
Alors, au niveau des activités, c'est nous qui démarchons les communes pour qu'ils nous tiennent au courant des manifestations qui se déroulent chez eux. Et certains élus de Quingé et d'autres communes font partie du bureau de l'Office de tourisme, du comité de direction, et participent pleinement aux décisions de l'Office de tourisme.
En tant qu'Office de tourisme, vous êtes inclus aussi dans le fonctionnement de la communauté de communes Loulison, c'est-à-dire que vous avez un regard, qui est le même regard sur l'ensemble des activités de la région?
Exactement, donc l'Office de tourisme est relié à la communauté de communes Loulison, et nous faisons la promotion des manifestations et également la promotion des activités des prestataires sur ce territoire de 75 communes.
Alors, j'ai lu sur Internet, vous savez, on arrive à savoir à peu près tous nos intervenants sur Internet, que vous aviez un goût particulier, semble-t-il, pour le patrimoine et les maisons de caractère dans notre région. Alors, dans le secteur Loulison, à part l'église de Quingé dont on a parlé tout à l'heure, si vous me proposiez une balade dans le coin pour aller découvrir une ou deux maisons peu connues, j'irais où?
Dans Quingé ou dans les communes environnantes?
Dans Quingé ou dans les communes environnantes, comme vous voulez.
Alors, dans Quingé, il y a aussi une petite balade qui peut se faire jusqu'à la tour Calixte II. Donc, la tour de l'ancien château de Quingé, là où serait né le dit pape Calixte II. Après, dans les villages voisins, au-dessus de Quingé, il y a Avant-Dessus, qui est aussi très joli à voir, avec le château de Jouffroy d'Avant.
Oui, on dit bien à nos auditeurs, si elle s'appelle Avant-Dessus, c'est parce que c'est le château de Monsieur Jouffroy d'Avant, bien connu en particulier des Byzantins à cause d'une statue célèbre.
Voilà, la statue réalisée par Pascal Poupeau, qui est sur le nouveau pont battant.
Voilà, et donc, qui, dans les réseaux sociaux, fait l'objet d'un regain particulier d'intérêt.
Tout à fait.
Et puis, dans d'autres coins, vers Ornans, par exemple, il y aurait peut-être des choses à voir également?
Oui, sur la haute vallée de la Loue, vous avez donc les cités de caractère de Bourgogne-Franche-Comté. Après, sur notre territoire touristique, on a la chance d'en avoir 6 sur le même territoire. Donc, il y a effectivement Arquesnan qui est classé, il y a Quingé, Ornans, Villafant, Lot et Moutier-Haute-Pierre. Et Lot a la particularité également d'être labellisé plus beau village de France.
Je vous avais demandé de nous proposer la pause musicale. Vous m'avez proposé Queen, le Show Must Go On. Le tourisme, c'est un show aussi?
Oui, avec beaucoup de manifestations, des concerts, surtout en été, et beaucoup d'activités. Donc, il y a de quoi s'occuper toute l'année sur la destination Loulison.
Écoutez, monsieur maire du Pauzet, je vais vous remercier de nous avoir accompagnés au cours de cette émission consacrée à Quingé, à sa vie et bien entendu à sa vie touristique. Et puis, on va se quitter avec Queen. Merci.
Merci à vous.
Tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friend.
The show must go on.
Yeah.
The show must go on.
I'll face it with a grin.
RCF en Franche-Comté, à Montbéliard, sur le 88.3.
Pour Ligne de Mire, nous sommes à Quingé pour mieux connaître les communes que va parcourir notre archevêque au cours de ses visites pastorales. Il y a quelques instants, on était avec Queen Show Must Go On pour parler du show du tourisme avec monsieur Pierre Maire du Pauzet qui vient de l'office de tourisme d'Ornans et qui arpente les espaces entre Quingé et Arquesnan à bord d'un triporteur. J'espère qu'on aura l'occasion de le revoir l'année prochaine. Autre activité spécifique de Quingé, c'est bien entendu l'association Le Tri, ressourcerie qui assure collecte, valorisation et vente d'objets réemployés, recyclables et d'autres choses. Et pour parler de tout cela, eh bien, je reçois notre dernier invité.
Ligne de mire, l'invité de la rédaction.
Frédéric Ponce, bonjour.
Bonjour, monsieur Lay.
Vous présidez donc l'association Le Tri qui avait été créée en 1994. Alors elle compte actuellement, alors je ne sais pas si je suis à jour, mais 85 salariés et 62 bénévoles. Est-ce que j'ai juste ou est-ce que j'ai faux?
Oui, c'est un petit peu évolué par rapport à ces chiffres-là. On compte à peu près, un peu plus d'une centaine de salariés. Ouais. Et même dans l'année, en moyenne, on arrive à peu près à 150, puisqu'il y a à peu près 54 postes dédiés à des gens en insertion qui assurent un certain turnover, puisque ces personnes-là sont là entre 6 mois et 2 ans dans notre structure.
Alors...
Puis un panel de bénévoles, à peu près une centaine aussi, mais dont 80 sont très actifs et très présents dans l'association.
Oui, avec des gens qui sont présents parfois plusieurs jours par semaine.
Ah oui. Affirmatif.
Alors on va expliquer un petit peu à quoi correspond le tri. Donc c'est une association qui comporte trois secteurs d'activité, un secteur blanchisserie, un secteur ressourcerie et un section gestion de l'espace naturel sensible. Environnement, on va dire. Si on parle d'abord de la blanchisserie, j'ai été, quand j'ai regardé un petit peu votre association, intéressé par cette phrase, un moyen de permettre à des femmes en milieu rural de trouver de l'emploi. Est-ce que c'est une vraie préoccupation, ces femmes qui travaillent le plus souvent avec leur époux dans des fermes, dans des élevages, et pour lesquelles il n'y a pas forcément un emploi pour elles à l'intérieur de la structure? C'était une autre façon de voir la possibilité d'avoir un emploi?
Oui, bien sûr, il y a ces personnes-là, mais il y a aussi un volet qui nous est cher aussi, c'est l'insertion ou la réinsertion professionnelle de personnes qui se trouvent à un moment de leur vie en difficulté professionnelle ou sociale. Donc voilà, on accueille aussi toutes ces personnes-là, notamment dans notre blanchisserie.
Alors justement, à ce propos de cette insertion, comment ça se passe? Quingé n'est pas forcément immédiatement à côté des lieux où habitent ces personnes. Vous les hébergez ou vous leur trouvez des lieux d'hébergement pendant leur temps d'insertion? Comment on procède?
Non, nous n'assurons pas l'hébergement de ces personnes. Hein. Donc, alors effectivement, c'est aussi une problématique, c'est les déplacements pour certaines personnes qui sont privées de véhicules. Donc, c'est souvent le fruit de nos réflexions. On essaie de trouver des solutions pour ces personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Alors, maintenant, il y a des bus un peu plus fréquents aussi entre ne serait-ce que Besançon et Quingé, donc le matin, le soir, et ça donne un bol d'air aussi à ces personnes qui viennent nous rejoindre à Quingé.
Alors une blanchisserie à Quingé, alors bien entendu, on en a parlé tout à l'heure, il y a la maison de santé, enfin l'établissement de santé qui doivent représenter un volume important de linge et de draps, mais il y a aussi d'autres clients à votre blanchisserie?
Alors, en fait, c'est un ensemble hospitalier qui comprend non seulement la MAST, hein, dont vous parliez tout à l'heure, mais aussi la maison de retraite. Hein. Donc, à ce titre-là, bah, ce sont deux gros clients pour notre blanchisserie, et auquel on associe aussi un autre client qui est plus saisonnier, je dirais, qui est l'établissement des thermales de Saint-Malébin.
Alors, quand on est à la tête d'une blanchisserie comme celle-ci, on va dire en milieu rural, est-ce que ceux à qui vous rendez une prestation, en particulier le milieu hospitalier, n'ont pas été tentés à un moment ou à un autre de trouver un autre circuit? On sait que les établissements hospitaliers ont tendance à beaucoup mutualiser leur activité externe. Est-ce que c'est pas quelque chose qui s'est présenté comme étant un risque?
Ça reste toujours un risque potentiel. Hein. Nos échanges avec ces gros clients-là sont assez fréquents, sont remis sur la table assez fréquemment, mais on a toujours trouvé des solutions pour bien fonctionner ensemble. Alors, de surcroît, nous avons un atout parce qu'on se trouve à peu près à 1500 mètres de ces établissements, donc c'est un circuit extrêmement court, donc il n'y a quasiment pas de frais de transport, donc ça c'est un atout fort pour nous.
Et puis vous fournissez du chauffage?
Pardon?
Vous fournissez de l'eau chaude, je crois, pour du chauffage?
Non, mais nous, enfin tout le linge, les machines fonctionnent avec de l'eau chaude générée par des cellules qu'on a sur notre établissement à Quingé, qui nous fournit l'électricité et qui nous chauffe aussi notre eau. Alors, en complément, évidemment, on a d'autres, on a un autre système qui nous permet de compléter si véritablement le temps est vraiment trop maussade. Et sinon, voilà, on chauffe notre eau nous-mêmes, de même que notre chauffage aussi. On a des pompes à chaleur pour chauffer le bâtiment qui viennent en complément d'une chaufferie à bois déchiqueté. Donc voilà, on est toujours quand même dans un esprit développement durable. Maximum.
Oui, on a bien entendu, et que effectivement la partie phare, on va dire, du tri et la ressourcerie, c'est aussi un moyen de faire de ce qu'on appelle de l'économie circulaire, c'est-à-dire réutiliser les produits. Chez vous, on peut amener tout, ou il y a des choses vraiment qui s'amènent pas du tout à la ressourcerie?
Bien sûr. Alors avant, je voulais simplement, avant de terminer sur la blanchisserie,
oui,
je voulais aussi préciser qu'en fait, elle est ouverte aussi à tout le monde. Hein, elle est ouverte au public. Et donc, ça représente à peu près 20% de notre activité. Ce sont des particuliers qui viennent déposer leur linge, leur drap, leur literie, leur rideau, etc., leur couette. Et ça représente quand même 21% de notre chiffre d'affaires.
Vous avez bien fait de donner l'information, parce que c'est très intéressant de penser qu'effectivement, le tout à chacun, chaque personne s'investit. L'image que vous avez, que vous donnez de la ressourcerie, le tri, est aussi une image qui est peut-être porteuse pour les gens qui viennent à la blanchisserie. Ils viennent aussi là parce que c'est le tri.
Oui, parce que c'est une association locale, parce qu'on y pratique l'insertion aussi, parce que voilà, on porte aussi des valeurs dans le développement durable.
Alors on va continuer avec la ressourcerie et justement le développement durable. Il y a dans ce qu'on amène à une ressourcerie, il y a des choses qu'il est inutile d'amener parce que de toute façon on ne peut rien en faire. Il y a vraiment des choses très typiques qui peuvent pas être réutilisées.
Ça peut arriver, certes. Alors là dans tout ce qu'on collecte, parce qu'on assure aussi la collecte des encombrants. Pour la communauté de communes de
Loulison,
la CCLN, Loulison,
hein, oui.
Donc ça représente 71 communes, soit 19 000 habitants, et nous assurons donc la collecte des encombrants. Alors évidemment, les gens se débarrassent de ce qui les encombre, mais effectivement, il y a un certain pourcentage qu'on ne peut pas, à l'heure d'aujourd'hui, qu'on ne sait pas encore recycler.
Mais
rassurez-vous, ça représente aujourd'hui que 7%.
Dans votre activité, vous êtes uniquement sur la communauté de Loulison ou vous avez une activité plus large? C'est-à-dire, est-ce que vous étendez cette activité sur d'autres déchetteries de la région?
Alors, pour les déchetteries, oui, bien entendu, parce que nous avons un partenariat avec le CIDER du Grand Besançon, et sur 18 déchetteries, on nous en confie 16. On en a 16 pour lesquelles on place des ressourciers, et qui sont là aussi donc pour conseiller les personnes qui viennent déposer des objets ou des objets, oui, considérés comme déchets.
Alors, notre région a été un petit peu à la pointe hein, des soucis écologiques depuis de très nombreuses années. Il y a quand même une vraie prise de conscience de la population. Vous êtes aperçu au niveau des volumes traités en ressources que vous aviez une augmentation de ces volumes, que vous deviez faire face à un afflux beaucoup plus important?
Oui, c'est on a souligné comme une augmentation. Alors une augmentation qui est difficile à affiner parce que en même temps que vous parlez de cette évolution-là, il y a eu la fusion des communautés de communes. Donc ça a modifié un peu notre espace de travail. Mais néanmoins, on a enregistré bien sûr une augmentation de l'activité. Alors pour nous, à Tri, on a évidemment un peu plus de même que la normale, parce que nous avons créé un GIE, un groupement d'intérêt économique avec une autre structure d'insertion de Besançon qui s'appelle Intermed, et nous proposons aux personnes qui ont un bien à mettre en vente, une maison, un appartement, etc., de les débarrasser de ce qu'il y a dedans, de nettoyer et de procéder à certaines petites réflexions pour que le bien soit prêt à la vente.
Alors justement, à propos de cet ensemble de collecte, vous avez un certain nombre de produits que vous revendez. La prochaine grande vente, c'est quand?
Ah, c'était samedi.
Ah, perdu.
Généralement, c'est tous les mois.
C'est tous les mois, d'accord.
Et sinon, les ventes ont lieu tous les samedis. Alors, tous les mois, c'est des grandes ventes. Donc, on est ouvert de 10h du matin à 16h l'après-midi. Et sinon, tous les autres samedis du mois, on est ouvert l'après-midi de 14h à 17h.
D'accord, on prend bonne note. On va évoquer le dernier chapitre hein, de votre association qui, je pense, vous tient aussi beaucoup à cœur parce que c'est quand même assez original de penser qu'une blanchisserie-ressourcerie fait de l'écologie sur le terrain avec une préservation d'espaces naturels. Alors, un petit mot sur ce qu'est la côte du Moigny, ce que sont des pelouses sèches.
Ah, la côte de Moigny, effectivement. Donc, la côte de Moigny se situe derrière notre bâtiment. Alors, nous, notre bâtiment, il est situé juste à côté d'un bâtiment plus célèbre qui est celui de Peugeot. Mmh. Hein, Peugeot qui fabrique des... dans la zone de la Blanchotte de Quingé, qui fabrique des ustensiles pour la cuisine.
Oui, on en a parlé tout à l'heure, tout à fait.
Oui, voilà, donc on est juste à côté. Et entre nous et Aban-le-Dessus, le village d'à côté, il y a une petite colline qui s'appelle donc la Côte de Moigny. C'est là qu'on a été chargé par différentes entités d'entretenir le maintien de la pelouse sèche. Alors, qu'est-ce qu'une pelouse sèche ? C'est une pelouse... traditionnelle qu'on trouve assez fréquemment dans le Jura et qui a une propriété particulière qui ne retient pas l'eau. Hein. Mmh. C'est d'où son nom de sèche. Et donc se développe une faune particulière, une flore particulière qui est assez remarquable et qui est nécessaire à l'heure d'aujourd'hui d'assurer la sauvegarde.
Alors vous y avez mis un troupeau de chèvres pour des raisons qui sont des raisons effectivement que la seule pâture possible c'est la pâture des chèvres.
Ben voilà, les chèvres permettent un travail besogneux et difficile parce que c'est une côte très très raide, caillouteuse. Enfin voilà, c'est pas très aisé de s'y déplacer. Seuls les chèvres se déplacent avec aisance. Mmh. Donc effectivement, on a un troupeau qui est situé sur cette colline-là et de surcroît nous avons agrandi l'opération, on nous a demandé de l'agrandir jusqu'à l'autre bout de la colline, c'est dans la commune de Lombard. Mmh. Donc voilà, on a deux points particuliers sur cette commune-là où nous assurons le maintien d'une pelouse sèche.
On peut venir s'y promener ?
Tout à fait.
Il y a des visites qui sont possibles sur des sentiers ?
Alors, pour les groupes, il est possible de demander à ce qu'on organise une visite. Sinon, le parc est ouvert. Il y a une porte qui permet de... Évidemment, avec un gros ressort pour qu'elle se referme, pour pas que les chèvres se sauvent. Mais sinon, voilà, le promeneur peut facilement se promener. Il y a des petits panneaux indicateurs qui expliquent un petit peu la faune et la flore qu'on y trouve. Et puis explique aussi le point de vue, parce que le point de vue est magnifique.
Monsieur Ponce, je vais vous remercier de nous avoir donné tous ces détails sur le tri. On invite nos auditeurs, ils tapent sur leur moteur de recherche le tri Quingé, ils vont tomber sur votre association avec un site qui est remarquablement bien fait et très documenté. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Notre émission touche à sa fin. Merci à nos invités Jean-Michel Roy, Marie-Laurence Beau, Claudine Barthet, Pierre-Mère Duposet et Frédéric Ponce. Merci également à l'équipe pastorale qui nous a ouvert les portes du presbytère et à l'équipe technique de RCF pour la réalisation de cette émission enregistrée à Quingé. Vous nous retrouverez cette émission en rediffusion samedi à partir de 17h et sur le podcast de rcf.fr. N'oubliez pas d'installer notre application sur vos appareils mobiles. Vous pourrez nous écouter en toutes circonstances. Beaucoup de joie, beaucoup de plaisir à l'écoute des programmes de RCF.